Une convention du FLNKS décidera de la suite à donner à la recherche d'un accord politique, mais le bureau politique du Front ne se retrouve pas dans le document proposé par l'État. Série d'échanges entre la direction et les salariés de la SLN, la société Le Nickel qui présente sa feuille de route pour 2025. Aujourd'hui, les échanges se sont déroulés avec des employés du site de Dognan-Beauf. Le gouvernement suit de près la situation du monde de la santé et notamment la pénurie de soignants. Claude Gambet, membre du gouvernement en charge du secteur, était notre invité ce matin, extrait dans ce journal. L'agence sanitaire et sociale vient de lancer une opération de sensibilisation qui invite la population à intégrer l'activité physique dans son quotidien. À vos marques, prêts, bougez, au cœur de notre magazine citoyen à la mi-journée. Et puis le sport et le volleyball et une série de matchs amicaux entre les sélections de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Les premiers matchs vont se jouer ce soir à la salle Omnisport de Lanzvata. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Le bureau politique du FLNKS ne se retrouve donc pas dans le document proposé par l'État lors de la dernière séquence de discussion en présence de Manuel Valls, c'était il y a quelques jours. Ces différentes composantes vont se réunir avant la tenue, le 26 avril, d'une convention du FLNKS qui décidera, Elisabeth Noir, de la suite à donner à la recherche d'un accord politique.
Et toutes les composantes du nouveau FLNKS étaient autour de la table au siège de l'Union calédonienne pour dresser le bilan de cette nouvelle séquence de discussion avec le ministre des Outre-mer. Il relève que Manuel Valls continue de privilégier un cadre de dialogue permettant d'évoquer tous les sujets sans tabou dans un temps raisonnable. Ça, c'est pour l'aspect positif. Mais pour le reste, le FLNKS ne se retrouve pas dans le document posé sur la table par le ministre des Outre-mer. C'est ce que déclare notamment le porte-parole Dominique Fauchy.
Suite à cette dernière séquence, on a pris acte que l'État a posé un projet d'accord sur la table. Un projet d'accord qui réunit un peu toutes les visions, tous les objectifs de chacune des parties prenantes. En tout cas, pour le FLNKS, nous, on ne s'y retrouve pas encore, puisqu'on a réaffirmé lors de notre dernier congrès que l'accord de Nouméa était le plancher des discussions négociations. L'accord de Nouméa est bien un accord de décolonisation. Pour l'instant, dans ce qui nous est proposé par l'État, on n'a pas de visu sur la période de transition et la sortie. Des visus clairs, mais c'est normal puisqu'on est qu'à ce stade des discussions. Les choses vont reprendre à la fin du mois.
Ce document est considéré par le FLNKS comme une base de travail, mais il ne traduit qu'un lien d'appartenance encore plus fort à la France et il nous entraîne dans une période d'incertitude sans délai précis concernant le transfert des compétences régaliennes, ni même de garantie pour exercer le droit à l'autodétermination, déplore le FLNKS. Il regrette aussi le renforcement des provinces qui est à contre-courant, dit-il, de sa vision et il réitère sa volonté de la supervision de l'ONU en rappelant qu'il ne reconnaît toujours pas la légitimité du troisième référendum. Mais pour lui, cette dernière phase est encore celle des discussions. Les négociations n'ont pas commencé, son équipe n'en a pas reçu mandat. Il faut attendre la convention du FLNKS le 26 avril pour savoir quelle décision sera prise.
Le congrès du Front des Quatre Cocotiers a défini des phases, une phase de discussion et une phase de négociation. Des retours que nos équipes nous ont faits, ils nous disaient que pour eux, la phase de discussion, elle était terminée. Donc ça va être aussi d'évaluer si on passe à la phase de négociation pour la prochaine séquence. Pour l'instant, on en a mis nos gens au travail, les groupes de pression ils vont se réunir et puis on avisera.
On avisera le 26 avril, c'est-à-dire 3 jours avant le retour de Manuel Valls. Le FLNKS précise aussi que c'est le Front qui est autour de la table et il ne reconnaît pas la légitimité des groupes politiques du Congrès. Et puis, autre précision du FLNKS, il ne veut pas d'un compromis politique, il ne veut pas faire de concessions, il veut un accord gagnant-gagnant.
Un compromis, par essence, c'est un accord perdant-perdant, où chacun devra laisser un petit peu faire des concessions. Un accord gagnant, on met sur la table chacun des objectifs de toutes les parties prenantes, et on y répond. C'est ça la différence. C'est là où nous, on sort gagnant, l'État sort gagnant, et les partenaires aussi. Il faut que chacun s'y retrouve dedans. Faire la méthode qui est proposée de faire un compromis, ça c'était dans le courrier avant la séquence qui était passée. Nous, c'est un concept qu'on n'aimerait pas s'y engager. Tout simplement parce qu'il va falloir faire des concessions. On a assez, le peuple kanak a assez donné. Maintenant, il faut sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Il faut sortir gagnant-gagnant, aussi bien l'État français, parce que l'État français, certes, on lui demande d'être impartial, mais il est aussi acteur, parce qu'on voit très bien que dans le projet politique, il y a ses positionnements aussi dedans.
Bref, on n'est pas encore à un accord. Évoquez également la question de ce que le FLNKS appelle ses prisonniers politiques, avec un aveu qui n'avait jamais été fait sous cette forme. Il revendique ce qui s'est passé le 13 mai.
Pour nous, le 13 mai, c'est un fait politique. Donc, tout ce qui est lié aux arrestations, c'est traité dans le cadre politique.
Le 13 mai est un fait politique, on est loin de la réaction d'une jeunesse laissée sur le bord du chemin ou de l'expression d'inégalité sociale. Le FLNKS assume donc la violence insurrectionnelle du 13 mai et ce n'est pas anodin.
Les SLN rencontrent l'ensemble de ses salariés. La direction leur présente la feuille de route pour 2025. Des premières réunions ont eu lieu à Koumak, Poya et Kouawa. Et aujourd'hui, ce sont des salariés de Donyambo qui étaient réunis au Centre culturel du Mont d'Or, Jean-François Bodin.
L'objectif de la direction est de fixer le cap alors que l'entreprise a traversé une crise sans précédent l'an dernier. Les difficultés, voire l'impossibilité d'accéder à la ressource pour faire tourner l'usine et les destructions ont gravement pénalisé la SLN. Aujourd'hui encore, elle perd de l'argent. Mais en 2025, la société espère un retour à la normale, nous a dit son directeur général, Guillaume Curec.
La SLN est dans un moment historique. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on est en perte financière assez lourde. Nous avons un petit peu de visibilité devant nous, quelques mois, jusqu'à la fin d'année. Il est important de pouvoir mobiliser l'ensemble de nos salariés pour partager notre feuille de route, partager les différentes solutions que l'on peut avoir pour traverser cette crise. Crise qui touche bien sûr l'ensemble du territoire, mais qui touche tout particulièrement la SLN. Et rappeler à tout le monde qu'on a un rôle à jouer. Un rôle de locomotive en tant qu'entreprise importante de la filière nickel pour aider à la reprise économique. C'est bien le but de ces rencontres, de mobiliser l'ensemble de nos équipes, essayer de garantir l'atteinte de toutes les performances que doivent être celles d'une entreprise comme la nôtre. Quand on est performant, que ce soit en sécurité, en production, en accès sur nos différents sites miniers, quand on peut redresser la teneur, on donne confiance à nos actionnaires et la confiance, c'est la base de tout soutien.
Aujourd'hui, l'usine de Donyambo tourne à 60% de ses capacités en raison des blocages des sites miniers de la côte Est. Le mix de minerais actuel entraîne une teneur en nickel de 2%, ce qui n'est pas rentable pour la SLN. La réouverture des sites de la côte Est est donc un enjeu vital pour l'entreprise. Cela pourrait permettre de passer à 2,35% de teneur et ainsi gagner 8 milliards de francs par an.
On a vraiment besoin des sites de la côte Est pour faire un mix minerai qui soit optimisé et qui nous permettra de redresser la teneur nickel. Sur Poro, sur Kouawa, nous avons beaucoup de discussions ou d'actions opérationnelles pour relancer de l'activité. C'est une visibilité qui va se compter en mois, de pouvoir réaccéder à Kouawa, réaccéder à Poro. Sur Thio, on est dans les toutes premières étapes de reprise de dialogue. Les choses vont être forcément très longues, ce ne sera pas avant la fin d'année. Alors l'accès aussi de la côte Est est un enjeu majeur pour le retour de l'emploi, pour le retour de l'économie via la sous-traitance sur ces sites. C'est un enjeu majeur pour l'entreprise, parce que ça nous permet de remonter la teneur au niveau des fours et donc d'augmenter la puissance et donc de refaire du ferro-nickel, de relancer notre mécanique industrielle. C'est un enjeu majeur pour le pays, puisque quand on fait du chiffre d'affaires, on paye de la fiscalité et on a des retombées qui augmentent pour l'ensemble du pays.
L'autre aspect essentiel de la feuille de route de la SLN pour son directeur général, c'est l'énergie. Il faut absolument baisser les coûts pour sauver l'entreprise. La CAT, la centrale à côté temporaire, arrive au bout de son autorisation d'exploitation alors qu'aucune solution durable n'a été actée, rappelle Guillaume Curec.
La centrale à côté temporaire est autorisée jusqu'au novembre 2025. On est en phase de demande d'une prolongation de cette autorisation temporaire. Une enquête publique va être ouverte à partir du mois de juin. En parallèle, avec l'ensemble des acteurs concernés, Prony, Enercal, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous avons adressé dernièrement un courrier au ministre d'État rappelant toutes les solutions qui existent, qui sont connues, qui ont été documentées pour mettre à disposition de la métallurgie calédonienne une énergie qui soit compétitive et le plus vite possible décarbonée.
Quelle solution vous préconisez ?
Une centrale sur Nouméa de l'ordre de 160 à 200 MW, idéalement au gaz.
Des propos recueillis par Nicolas Legrand. Notez que lors de ses échanges avec les salariés, la direction présente également son plan de départ volontaire. Depuis les émeutes, la SLN est déjà passée de 2200 à 1900 salariés en raison en grande partie de la fermeture du site de Thiou.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Croyez-vous à une éclaircie du secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie ? Si vous y croyez, vous tapez 1. Si vous n'y croyez pas, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 65% des auditeurs d'Erarbe qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être choqués par la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump. Ils sont 35% à dire à l'inverse que cela les choque. Et à propos des droits de douane dans la région Pacifique, à Nandi, le vice-premier ministre et ministre fidjien des Finances, Biman Prasad, a déclaré que le Pacifique doit unifier sa réplique au nouveau tarif douanier appliqué par l'administration Trump. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Biman Prasad a profité du colloque des investisseurs du forum qui se poursuit à Nandi pour appeler les dirigeants du Pacifique à se réunir d'urgence afin, je cite, « d'élaborer une réponse régionale ferme aux tarifs douaniers injustes qui viennent d'être imposés par les États-Unis. La région Pacifique, a-t-il insisté, a toujours été le partenaire le plus solide des USA et il a donc invité ses dirigeants à rencontrer d'urgence l'administration américaine afin, a-t-il dit, de lui présenter la situation particulière de la région et de plaider en faveur d'une équité tarifaire régionale. Le Premier ministre papou, James Marape, a déjà indiqué quant à lui qu'en réponse aux nouveaux tarifs douaniers américains, son pays étudie la possibilité de réorienter ses exportations. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 17h56, on marque une première pause dans le journal.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sud-Nef au soir, Lionel Sabot.
Dans l'actualité économique, ce nouveau communiqué de la FINC qui critique la position du syndicat des importateurs qui s'en prend aux mesures de régulation de marché. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, écrit la FINC, qui estime que le commerce de gros et l'importation ont capté 202 milliards de pouvoir d'achat aux Calédoniens en 2022. La FINC souligne également des écarts de prix importants sur certains produits vendus dans les petits commerces, beaucoup moins chers que dans la grande distribution. Ce ne sont pas les coûts d'approche, ni la fiscalité ou la production locale qui sont responsables de ces écarts, mais les pratiques commerciales mises en œuvre par la distribution, écrit la FINC. Au chapitre des faits divers, en début d'après-midi, vers 14h, un camion plateau transportant un conteneur de ferraille s'est renversé sur l'échangeur de Coécara. Il n'y a pas eu de blessés et la circulation n'a, semble-t-il, pas été perturbée. Le général Frédéric Marquilecchia, suspendu à titre conservatoire des fonctions de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques qu'il occupe depuis près de 6 ans. Il ne souhaite pas réagir personnellement à cette affaire et c'est son avocat, Maître Le Pape, qui fait le point de la situation dans un communiqué publié ce matin, Elisabeth Noir.
Maître Le Pape rappelle que le général Marquilecchia, contrôleur général des sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale métropolitaine, a été informé de sa suspension administrative à titre conservatoire par voie d'huissier le 21 mars 2025 avec effet immédiat. Le général Marquilecchia a d'abord été abasourdi puis indigné par l'indélicatesse du procédé, affirme son avocate, mais surtout par la teneur diffamatoire et calomnieuse de cette décision. Pour son conseil, la divulgation de cette décision administrative personnelle pose en outre l'inévitable question de la source de cette fuite inadmissible au sein de la fonction publique territoriale. Une fuite qui, écrit son avocate, devra être identifiée et sanctionnée. Maître Le Pape tient aussi à préciser que cette suspension administrative temporaire de 4 mois n'est pas une sanction disciplinaire. Elle fait suite à 2 dénonciations de la part de l'adjoint du général Marquilecchia, selon des sources officielles. Le général ne connaît pas la teneur exacte de ces dénonciations, indique son conseil, mais des recours seront déposés tout prochainement, ainsi que des plaintes auprès du procureur de la République pour les calomnies et propos diffamatoires dont il est la cible et pour en demander réparation.
Maître Le Pape rappelle aussi que le général Marquilecchia est un homme d'honneur, médaillé et décoré des ordres français les plus prestigieux et que sa carrière est sans tache aucune. Elle rappelle enfin ses actions de protection des Calédoniens, notamment pendant la pandémie de Covid-19 et pendant les exactions de mai 2024. Nous reparlerons de cette affaire demain matin. C'est en effet Maître Nathalie Le Pape qui sera notre invité à 7h30. Le système de soins calédonien est en crise. Nous en avons parlé ce matin avec Claude Gombet, le membre du gouvernement en charge notamment de la santé. Il était notre invité du matin à 7h30 et il a insisté sur les pénuries d'effectifs qui sont surtout importantes dans le secteur infirmier, Jean-François Bodin.
Le système de santé n'est pas encore en mode dégradé, affirme Claude Gombet, mais 95% des professionnels de santé sont concentrés dans le sud et les problèmes sont sensibles dans le nord et surtout dans les îles. Mais le membre du gouvernement en charge de la santé veut relativiser. Il s'agit d'une pénurie pénurie mondiale.
La pénurie de soignants, elle est nationale, elle est mondiale, elle est internationale, etc. Pour ce qui concerne la pénurie d'infirmières, ça fait déjà un certain nombre d'années que nous étions plus ou moins au courant qu'il allait y avoir une pénurie. Les événements qui sont survenus l'année dernière ont accéléré le phénomène. Donc maintenant, je crois que l'urgence pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de retrouver un certain nombre d'infirmières. Donc c'est l'objet des missions qui ont été organisées et puis des appels à des recrutements étrangers qui sont en cours. Donc il faut savoir également que l'école d'infirmières, ici, ce qu'on appelle l'IFPSS, va sortir ce mois-ci une trentaine d'infirmiers. Donc les choses vont se régler petit à petit. Peut-être pas assez rapidement, mais c'est en train de se régler.
La réponse est notamment d'augmenter les effectifs de l'école d'infirmières pour les passer à 75 élèves. Il y a aussi le recours à des embauches à l'étranger. Et c'est la Belgique qui fournit le plus de candidats. Il faut dire qu'en Calédonie, il y a des problèmes de manque d'attractivité, notamment d'insécurité, reconnaît Claude Gambet. Il est cependant persuadé que les choses vont se réguler d'ici quelques mois et il rappelle que des avantages sont octroyés pour essayer d'attirer du personnel médical sur le territoire. Dans le secteur privé, où on relève le départ de spécialistes, le membre du gouvernement reconnaît qu'il y a des secteurs en tension. Mais désormais, une loi du pays permet aux médecins étrangers d'exercer en Nouvelle-Calédonie des embauches contrôlées, assure Claude Gambet.
C'est une commission d'autorisation d'exercice médical qui se réunit une fois par mois. Donc les recrutements ont commencé au début de l'année dernière. Moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, on en a recruté 25. Ce sont des médecins de spécialité très forte, hein, comme la néphrologie, le gynéco-obstétricien, neurochirurgien, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. La vigilance qu'il va falloir avoir, c'est faire attention parce que quand on fait appel à l'international, la Nouvelle-Calédonie étant très petite, on risque d'être vite saturé. Donc, il faut faire attention. Alors, la plupart des médecins qui sont recrutés ici sont des médecins qui exercent actuellement ou qui ont exercé dans l'Hexagone ou en Europe.
Claude Gambet relève aussi qu'une enveloppe de 9,2 milliards a déjà été accordée au RUAM au travers du prêt de l'État. Il annonce que cette enveloppe va être portée à près de 12 milliards pour lui donner plus de marge de manœuvre. Une interview de Claude Gambet qui est disponible en audio et en vidéo sur notre site internet.
Faire de l'activité physique est bon pour la santé, nous en avons parlé dans le magazine Citoyen, alors que l'Agence sanitaire et sociale vient de lancer une opération de sensibilisation qui invite la population à intégrer l'activité physique dans son quotidien. Opération baptisée À vos marques, prêt, bougez Jean-François.
Dans un territoire marqué par un fort taux de personnes en surpoids, voire en situation d'obésité, mais aussi un nombre de cas de diabète parmi les plus élevés au monde, l'activité physique au quotidien est un bienfait et pratiquer une activité physique régulière dans son quotidien est aussi une manière de prévenir ces situations qui finissent par mettre la situation en danger. Le tout est de le faire de façon progressive et de ne pas se mettre dans le rouge dès le début. C'est l'accompagnement que propose la SSNC dans son opération À vos marques, prêt, bougez, a expliqué Caroline Valla. Elle est coach sportive et coordinatrice sport santé à l'Agence sanitaire et sociale.
C'est effectivement intéressant d'avoir une approche bienveillante déjà envers soi-même, envers son corps, de reprendre une activité doucement. En général, on utilise le mot RASP, régulière, adaptée, sécurisée et progressive. Ça veut dire que les recommandations, elles sont de 30 minutes par jour, si on fait un raccourci. Et il y a des gens qui se disent, bon, ben, toute la semaine, j'ai pas eu le temps de bouger, donc ce week-end, je vais faire le pic Malawi, voilà. Donc les gens se mettent
par
dans le rouge.
Degrés,
voilà. Donc ça veut dire, déjà la première chose, c'est consulter son médecin pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. S'il y a des pathologies en plus, c'est d'autant plus recommandé. S'il y a la moindre douleur, la moindre gêne, aussi contacter son médecin. Ensuite, idéalement, donc, c'est bien se chausser, avoir une hydratation aussi, avant, pendant et après l'effort. Voilà, en fonction des pathologies, penser à avoir du sucre quand on est diabétique, voilà.
Et pratiquer une activité physique régulière dans son quotidien n'a pas des bienfaits uniquement pour le corps, a expliqué de son côté le docteur Calandreau, président du Conseil de l'Ordre des médecins.
Les bienfaits de l'activité physique, ils sont d'abord sur le corps, mais ils sont aussi beaucoup sur la tête. C'est intéressant contre le stress, l'anxiété. On dort mieux. Moi, j'ai une anecdote à raconter là-dessus. C'est pendant le Covid, je m'étais aperçu que si je ne faisais pas mon kilomètre qui était autorisé par les règlements autour de chez moi, je dormais beaucoup bien la nuit. J'avais même du mal à m'endormir. Hein, et donc, on s'aperçoit que pour le sommeil aussi, c'est très bon de faire de l'activité physique. Donc, c'est vrai qu'on a une société qui, malheureusement, oublie souvent l'activité physique, oublie qu'on est aussi un corps et une tête. L'harmonie entre les deux, elle se gagne à travers l'activité physique. Et moi, c'est une prescription que je fais pour mes patients déprimés. Je leur dis, je t'encourage, je vous demande de sortir de chez vous, d'aller marcher, d'aller éventuellement nager, de faire une activité physique parce que ça fait du bien. Et pendant qu'on fait son activité physique, en général, on ne pense pas à tous ces soucis.
bouger au quotidien, y compris dans les entreprises, profite aux salariés, mais aussi à toute l'entreprise. En 2022, la CIPAC a lancé un challenge inter-entreprise qui a tout de suite rencontré le succès. Son directeur général, Pierre Massenet, estime que c'est même une responsabilité de l'employeur d'aider les salariés à pratiquer une activité physique régulière.
On passe un tiers de notre temps au travail pour les personnes actives. Donc ça relève quand même de la responsabilité de l'employeur que de participer finalement à la remise en mouvement des citoyens qu'elle a dans son entreprise, parce que passant un tiers du temps au travail et étant globalement, pour la plupart des métiers de bureau, assis à longueur de journée, on s'est dit on peut participer justement à cette remise en mouvement. Donc on a mis ça en place, on s'est dit comment le faire pour pouvoir convaincre et non contraindre. Comment on fait pour rendre ce sujet ludique ? On a fait des challenges au sein de l'entreprise, différentes équipes au sein de l'entreprise et inter-entreprises, c'est-à-dire différentes entreprises qui se tirent la bourre. Alors on n'est pas sur des étirements, etc. On était simplement sur des pas. Mais en fait, juste compter le nombre de pas, finalement, ça permet justement aux collègues de se retrouver le matin avant le travail ou le midi pour aller simplement marcher sur la promenade Pierre Vernier. Ça fait du bien, ça aère l'esprit. Et puis ça fait quand même de la cohésion au sein des équipes.
Après 2022 et 2023, la CIPAC a interrompu son challenge l'an dernier en raison des émeutes et se prépare à lancer une éventuelle troisième édition du challenge autour du mois de septembre-octobre 2025. D'autre part, si vous souhaitez être accompagné dans cette reprise d'activité physique, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Agence sanitaire et sociale. Vous y trouverez des vidéos et des tutos pour vous aider à faire les bons gestes sans forcer.
Il est 18h06, on marque une dernière pause dans ce journal à suivre. Vacances, sport et météo.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et durant la période de vacances scolaires, des stages sont proposés aux ateliers du Faubourg au programme des stages de théâtre et d'art plastique pour les enfants dès 6 ans. Pour cette première semaine, Marion Adouanet propose de l'art plastique avec comme thème le carnet de voyage pour les 11-16 ans et de 13h à 16h pour les 7-10 ans. Un atelier animé donc par Marion Adouanet.
Ce matin, c'est le groupe des ados. Et les ados, j'ai décidé qu'ils choisissent chacun leur pays, l'endroit qu'ils ont envie d'explorer. Soit c'est un endroit où ils ont déjà été ou un endroit qu'ils idéalisent. Ça peut aussi être un voyage imaginaire. Donc les ados, ils partent chacun sur quelque chose de très différent. L'idée, c'est d'approfondir la technique pour chacun. Et l'après-midi, j'ai les enfants. Eux, on travaille tous ensemble sur un pays imaginaire qu'on invente. C'est plutôt un carnet d'explorateurs. Par exemple, on va faire du collage avec plein de photos. Et il n'y aura peut-être pas la photo de leur pays, mais l'idée, c'est qu'ils puissent expérimenter plein de techniques différentes, qu'on aille du réaliste à l'abstrait total. Là, tout de suite, ils sont en train de faire du doodling. Donc, c'est avec un stylo noir, des feutres à l'alcool. Ils font des dessins assez simples. On va aussi faire l'aquarelle. On fait pas mal de croquis, donc du dessin d'observation pour apprendre à saisir un moment, un instant. Parce que dans le carnet de voyage, on trouve beaucoup de petits collages. Et après, j'ai plein de techniques sous le coude qui pourront tester.
Et depuis hier, Marion Dionnet accueille plus de 20 enfants. Certains sont des habitués de ces ateliers d'art plastique.
Je m'appelle Mayana. Ça fait déjà assez longtemps que je fais tout le temps les stages de Marion. C'est un peu comme une habitude et surtout le carnet de voyage, ça me plaisait. J'ai choisi le Canada pour mon cahier de voyage puisque j'aimerais bien partir faire mes études là-bas. Donc ça me permet de me renseigner plus sur le pays, etc. Par exemple, là-bas, ils ont un concours très rigolo. C'est le concours des coiffures en fait farfelues. avec les cheveux gelés. Ils vont se baigner dans des sortes de lacs chauds. Ils trempent leurs cheveux pour après les faire geler, les coiffer et prendre en photo. Sacha, parce que j'ai déjà fait plein d'ateliers avec elle et que le carnet de voyage, c'était une bonne idée par rapport au fait que en fin d'année, je pars en voyage et je me suis dit bah c'était un bon moyen d'apprendre plus sur là où je pars. Aux États-Unis, la Statue de la Liberté, à l'Empire State Building, à la Maison Blanche, au Mont Rushmore. Et Nora, dans mon carnet de voyage, bah moi j'ai fait sur le Japon. Du coup, bah j'ai mis des choses qui rappellent le Japon, genre les sushis, les carpes, les japonais.
Thaïs, parce que j'ai envie de découvrir ce que le dessin peut apporter dans la vie. Moi, j'ai choisi la Nouvelle-Calédonie parce que c'est mon pays d'origine et j'aime beaucoup tous les couchers de soleil, aller à la mer, tout ce qui rappelle la Nouvelle-Calédonie.
Et la semaine prochaine, c'est la compagnie Les Kidam qui proposera un atelier théâtre pour participer. Il faut s'inscrire au 77 54 77, le 77 54 77. Le sport avec du volley-ball et une série de matchs amicaux entre les sélections de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna. Les sélections masculines et féminines vont s'affronter à 4 reprises d'ici la fin de la semaine. Des matchs organisés pour préparer les mini-jeux du Pacifique à Palau en juin et juillet prochain, mais aussi les Jeux du Pacifique de 2027 en Polynésie française. Moïse Kalemou est le président de la Ligue calédonienne de volleyball.
Et des rencontres prévues toute la semaine. Le but, un petit peu, c'était de préparer les mini-jeux. Donc maintenant, on est plus sur une phase pour préparer 2027. Des objectifs bien fixes, donc voir un peu nos joueurs et joueuses, comment ils évoluent, leurs conditions physiques et par rapport à des situations de compétition. Il y a aussi, en parallèle, des échanges de pratiques entre les techniciens. Et aussi par rapport aux dirigeants, voir un petit peu le développement du volleyball au sein de la région avec nos amis de Wallis et Futuna.
Les premiers matchs se jouent ce soir. La rencontre dames a débuté à 18h. La rencontre messieurs débutera à 20h. C'est à la salle Omnisport de Lansvatt à de Nouméa. Demain, les matchs se joueront au Mont d'Or, jeudi à Dimbéa et vendredi à l'Arène du Sud de Païta. Le sport avec du football. Demain après-midi, les demi-finales de la O-League aux îles Salomon. Le représentant calédonien Tigasport jouera à 16h sa place en finale contre les Papous à Dekari United. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était en 2003, déjà en O-League. Score final 1-0 pour Tiga. Dans l'autre demi-finale, les favoris Auckland City défieront les Vanuatais Difira Blackbird. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages domineront sur l'ensemble du territoire et s'accompagneront d'averses sur le sud-est, la pointe sud et le sud des Loyautés. Elles resteront plus fréquentes et prendront parfois un caractère orageux. Du nord au nord des Loyautés, elles seront plus rares. Sur la moitié sud de la Grande Terre et l'île des Pins, le vent d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, avec parfois des rafales à 30 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 22 et 25 degrés. Demain matin, le temps sera souvent gris et pluvieux. Sur la côte est et la pointe sud, les pluies pourront être localement fortes, parfois orageuses. Sur l'ouest, les pluies seront plus rares. Sur le sud-ouest, le vent d'est-sud-est atteindra 15 à 20 nœuds. Sur le nord-ouest, il sera faible à l'abri de la chaîne. Ailleurs, il sera compris entre 10 et 15 nœuds, Lionel.
Merci Nicolas, à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.